Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. C'est l'Intégral Foot. On est ensemble comme tous les samedis soirs jusqu'à 21h. Et non pas avec seulement un, mais deux membres de la Dream Team RMC Sport ce soir pendant 2 heures. Coach Courbis et Sébastien Piocel. Salut messieurs.
Salut les amis, salut à tous.
Qu'un coach par contre.
Alors un coach et un capitaine. T'as été capitaine longtemps.
Ouais, bah, allez, et abandonné même, des fois.
Je veux pas trop en dire, mais peut-être un futur directeur sportif. Vous pourriez être complémentaires tous les deux.
Ouais, on verra.
Pourquoi pas. Bon, on avait peur, il n'y a pas de Ligue 1 ce week-end, mais en tout cas, il y a des belles affiches et de beaux moments à vivre sur RMC, à commencer par les 8e de finale de la Coupe de France. Un invité à 19h30, Youssef Chibi, c'est l'entraîneur de Versailles, club de National 2, petit poussé de la compétition, qui vient de sortir Toulouse. Victoire du club de Versailles, donc qualifié pour les quarts de finale. On suivra évidemment Reims-Bastia, 34 minutes de jeu, 0-0. On fera un point sur le mercato, les gars, dans 10 minutes, puisque nous sommes à 48 heures de la fermeture du marché hivernal. Et puis, l'autre actualité foot, c'est évidemment la Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle la qualification du Cameroun pour les demi-finales. Le Cameroun qui vient de battre la Gambie. On suivra à partir de 20h Burkina Faso, Tunisie. C'est parti pour l'intégrale. Et on file tout de suite au Stade de l'Aune, où un club de Ligue 1 reçoit un club de Ligue 2, Reims-Bastia. Salut Kevin Gasser.
Salut Benoît, salut coach, salut Sébastien, bonjour salut, à toutes salut. Et à tous. Ouais, et là, vous venez de louper un loupé, d'ailleurs, incroyable de Hugo Ekitike, qui a la réception d'un bon centre de Mitchell Van Bergen. Et on ne sait pas comment, il loupe totalement sa reprise. Vous savez, la balle lui passe sur le mollet et vrille totalement sur la gauche. Et donc, seul au point de péno devant Johnny Placide. Il y a toujours 0-0 dans ce match entre le Stade de Reims et le SC Bastia. On joue la 37e minute de jeu.
Kevin, Reims domine depuis le début de la partie ?
Alors on peut dire que Reims domine, les meilleures occasions sont rémoises, les seules occasions sont rémoises, 3 occasions franches à 0. Et pour l'instant donc Reims qui défend bien, qui retrouve une bonne charnière centrale, qui essuie un peu l'affront face au PSG, le 4-0 encaissé. Ouais. Il cherche sûrement à se rassurer en passant par derrière et en construisant des belles séquences.
Ouais, effectivement, Reims qui est plutôt à l'attaque. Vous attendez à quel scénario les gars, Seb et Roland? Celui auquel on assiste, Reims qui pousse, Bastia qui tient jusqu'à pourquoi pas juste la séance de tir.
Comme dans beaucoup de matchs, l'ouverture du score qui est très importante. Et c'est vrai que pour le moment, quand on pense à une équipe qui peut ouvrir ou qui risque d'ouvrir le score, on pense plutôt à Reims qu'à Bastia sur ce qu'on voit depuis 35 minutes.
Et là, un bon débordement de Mitchell Van Bergen. C'est la même situation qu'avant. Ekitike qui marque seul face au but, face à Johnny Placide. 1-0, ouverture du score à la 37e minute de jeu. Le Stade de Reims qui débloque le compteur et qui croit, pourquoi pas, à un quart de finale. Ce serait le premier depuis 10 ans.
Mais t'as raison, effectivement.
Ouais, c'est Nati hein, qui couvre dans l'axe. Il lève le bras, mais a priori, il n'y a pas de position d'or.
Sébastien Piocel, on fait la Ligue 2 ensemble tous les samedis soirs. Il y a peut-être un moment où ça va un peu vite pour Bocognano, ton ami quand même. Hein.
Ouais, là aussi, après le bon déplacement, mais par rapport à l'alignement, il joue à 3 centraux. Il y a Senati qui a l'air d'être 2 ou 3 mètres derrière les autres. Ouais. Donc forcément, ça est critiqué. Je crois que c'est sa troisième occasion, là, il a pas laissé passer.
Et ça fait 1-0 donc pour Reims qui mène face à Bastia. Évidemment, je vais vous rappeler les résultats Coupe de France de l'après-midi, la qualification notamment d'Amiens sur la pelouse de Nancy. Et on disait l'exploit de Versailles, club de National 2, qui est allé sortir Toulouse. Toulouse qui est en tête de Ligue 2 et magnifique victoire de Versailles, club donc de 5e division. Allons tout de suite au Cameroun. 19h07 sur RMC, l'intégral foot, direction Douala. Le Cameroun vient de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire 2-0 contre la Gambie pour le pays organisateur. Timothée Mémon est sur place. Salut Timothée. Est-ce qu'il est là, Timothée?
On l'a perdu.
Ah. Timothée, une fois, il est là. Il m'entend, Timothée? Ah, on a des soucis de connexion avec lui. Magnifique victoire des Camerounais. On s'y attendait là aussi. Hein. Seb et Roland, ils étaient favoris. Ils n'ont pas déçu la Gambie qui dispute la première CAN de son histoire. Et surtout le Cameroun porté par Toko Ekambi et Vincent Aboubakar. 6 buts pour l'un, 5 pour l'autre. Ils sont les seuls buteurs du Cameroun depuis le début de la compétition.
Ils n'ont pas déçu forcément parce qu'ils rentrent dans le dernier carré. Mais franchement, je me suis à la rigueur plus régalé à voir le match face aux Comores. La Gambie, ils ont joué tous derrière. ils ont subi. Bon, ils sont mis à un rythme là en première période où ils ont tenu 0-0, mais ils ont vraiment rien montré. Alors que bon, finalement, c'est le genre de match que peut-être qu'ils rejoueront plus. Et ils ont voilà. Puis à l'arrivée, bon, sur les quelques occasions qu'ils ont, les Camerounais, sans vraiment élever leur niveau de jeu, ouais, ils ont gagné ouais, facilement.
Moi, je suis d'accord avec toi parce qu'en plus de ça, contre la Comore, j'aurais bien aimé. Allez, je parle même pas du problème de gardien, tu vois. J'aurais bien aimé voir ce match 11 contre 11 pendant 93 minutes. J'aurais voulu voir ça parce que nous avions un Cameroun complètement contracté, qui avait l'obligation de gagner, qui était stressé par pas mal de choses. Bon, bref, c'est comme ça. Maintenant, mais on va voir un petit peu ce qui se passera dans l'autre match à 21.
On l'a retrouvé, tiens, Timothée Mémon, direct de Douala, qui a assisté à cette rencontre depuis les tribunes. Salut Timothée.
Salut à tous.
Bah, raconte-nous l'ambiance qui règne juste du coup à Douala. J'imagine qu'on fête cette victoire camerounaise et cette qualif pour le dernier carré, pardon.
Oui, il faut dire que ce match, il était très attendu parce que Douala, c'est la capitale économique du pays, c'est la plus grande ville du pays et tous les matchs jusqu'à présent du Cameroun s'étaient joués à Yaoundé et les prochains matchs du Cameroun.
Eh oui, il y a du monde autour du stade et c'est difficile d'avoir une liaison avec Timothée, effectivement. Bon, on le retrouvera tout à l'heure. Est-ce qu'il est là, Timothée ? Bon, on va essayer de sécuriser la ligne. 19h10 sur RMC. Allons du coup sur la pelouse de Coupe de France, 8e de finale. Ce duel entre Reims et Bastia, Kevin Gasser, les Rémois qui ont pris l'avantage.
Oui, 41e minute de jeu, 1-0 pour le Stade Rémois. Et là, c'est la balle dans les pieds des Bastiais, mais qui n'arrive pas à trouver la faille. Peut-être là à gauche, débordement du numéro. Non. Et non, c'est un corner pour les Bastiais. Le premier de la partie à noter, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, l'absence des supporters corses, interdit de stade sur décision préfectorale, interdit de centre-ville. Même, c'est une décision donc pour éviter le remake du dernier Reims-Bastia du 13 février 2007. Je ne sais pas si vous vous souvenez, messieurs, oui, mais des violences avaient éclaté entre ultra-corses et les forces de l'ordre au centre-ville. Il y avait même eu un supporter corse éborgné. Donc, la décision est prise, il n'y a pas de supporter Bastia et pour l'instant tout se passe bien. Corner à suivre côté Bastia. On lève la main peut-être pour jouer une combinaison. Le corner est tiré et c'est une belle parade du jeune Yevan Diouf qui est dans les buts pour cette compétition, qui avait déjà fait une très bonne copie face à Taon. La touche va se jouer pour Bastia. Je pense que le danger est fini du côté Rémois. 42e minute de jeu, 1-0 pour Reims face à Bastia.
Ok, donc Reims qui mène toujours à 1-0. Bastia qui essaye d'attaquer pour tenter d'égaliser. On en parlait, Roland, avant d'entrer dans ce studio. Tu me disais le format change complètement le coaching désormais en Coupe de France. Le fait qu'il n'y ait plus de prolongation, ça modifie tout, les changements.
Alors, disons qu'allez, on va faire la petite différence entre dire tout et beaucoup de choses.
Voilà, ouais.
Voilà, mais bon, allez, on va prendre plutôt beaucoup de choses. Et notamment, effectivement, les changements. Je vous donne un exemple. Bon, quand tu es entraîneur dans une compétition où il y a la prolongation, ben, tu fais gaffe à tes changements. Après, ça dépend si tu as droit à 3 changements ou 5 changements. Mais à l'époque, quand tu avais droit à 3, il fallait faire gaffe, parce que si tu faisais ton troisième changement dans les premières 90 minutes, tu pouvais te dire qu'en cas d'une légère blessure, tu allais te taper la prolongation à 10 contre 11. Alors que là, même pour le petit, entre guillemets, celui qui n'est pas favori, eh ben, l'objectif, c'est d'amener le grand aux prolongations qui n'existent plus et au tir au but dès qu'il y a le coup de sifflet.
C'est gagné une demi-heure. Quelque part.
Et attention, le petit qui fait des efforts pendant 93 minutes, logiquement, pendant la prolongation, ben, c'est le grand qui, normalement, doit avoir l'avantage, alors que ça n'existe plus.
Un coup franc à venir pour Bastia à Reims, justement.
Coup franc, botté par Sébastien Salamonge qui s'élance. Il le botte. Bien dégagé par la défense rémoise.
Bon.
Et oh là là, difficilement dégagé. Quelle frappe ! La frappe du numéro 9, Benjamin Santelli, repoussé, je crois, par le montant, peut-être la transversale.
Ouais, qui est leur buteur.
Ah oui. Qui est leur buteur, oui. 8 buts cette saison. Il n'a pas trouvé le cadre cette fois-ci.
C'est le poteau.
Ça ricoche sur le poteau. Le gardien, ça prend un peu tout. Toujours est-il qu'il y a 1-0 pour le Stade Rémois, 44e minute de jeu et ça commence à chauffer pour les Rémois.
19h13 sur RMC, l'intégral foot avec coach Courbis, évidemment avec Sébastien Piocel également. On rappelle les résultats de la journée en Coupe de France, la suite des 8e de finale, les qualifications notamment de Versailles, club de National 2 qui est allé gagner à Toulouse 1-0. Qualification également d'Amiens, club de Ligue 2 qui est allé gagner chez un autre pensionnaire de 2e division, Nancy, victoire amiennoise, donc qui envoie les Amiennois en quart de finale. On suivra notamment ce match entre Marseille et Montpellier à partir de 21h. On va se quitter quelques instants, revenir pour vous parler du mercato. Et oui, c'est le dernier week-end pour faire ses achats, mon petit Roland. Ça y est, c'est les soldes. Le mercato hivernal qui s'arrête lundi soir. On fera le point, évidemment, sur tous les mouvements à venir avec Arnaud Valadon. A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
19h15 sur RMC, on est là avec Coach Courbis, avec Sébastien Piocel. Un week-end de Coupe de France et de Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe de France avec les 8e de finale. Je vous rappelle les qualifications d'Amiens sur la pelouse de Nancy, victoire 2-0 des Amiennois. Et de Versailles, club de National 2, le petit poussé de la compétition avec Bergerac, qui est allé se qualifier à Toulouse, club de Ligue 2, victoire 1-0 des Versaillais. L'entraîneur de Versailles, Youssef Chimi, sera en direct avec nous dans un quart d'heure. Le point sur le direct, c'est la mi-temps d'ailleurs entre Reims et Bastia, Kevin Gasser.
Oui, Stéphanie Frappard qui a sifflé la mi-temps. 1-0 donc pour le Stade Rémois face au SC Bastia.
Et d'ailleurs, on a revu le ralenti. Regardez les gars, c'est une parade du gardien Rémois en fait. Hein. Magnifique, on croyait que c'était le poteau.
Il faut avoir la main ferme là, parce que là où il est Santelli, en plus la puissance qu'il met.
Roland, ton micro, hop. Ouais, on va te l'allumer.
Parfait. On aurait aimé voir ça il y a 24 heures dans un autre sport.
Ouais, dans le handball. Effectivement, les Bleus face à la Suède ont été éliminés en demi-finale de l'Euro. On les retrouvera demain pour le match pour la troisième place.
Ça arrive, il y a des jours où ça rigole pas.
Exactement. Et on rappelle la Coupe d'Afrique des Nations, qualification pour les demi-finales du Cameroun, pays organisateur qui a battu la Gambie 2-0. On suivra à partir de 20h Burkina Faso face à la Tunisie. 19h16, le Mercato Show. Avec Arnaud Valadon. Est-ce qu'il est là en direct avec nous, Arnaud ?
Je suis là, je peux le faire le jingle si tu veux.
Ah, je veux bien, vas-y.
Salut Arnaud.
File-moi 30 000. Salut, ah non, c'est le marchand. Voilà, c'est celui-là, lui, il y a ce jingle-là.
Ah non, moi je voulais que tu chantes.
Mercato Show. Lequel, c'est comment l'air ?
Ouais, un truc comme
Mercato
ça.
Mercato Show. Ouais.
Bon, les infos importantes à retenir, mon petit Arnaud. Loïc Tanzi, évidemment, est en fusion. Il a le téléphone collé à l'oreille, puisqu'on est dans les toutes
les
dernières
heures. Les deux
téléphones,
même.
Les deux téléphones, effectivement. Ça sera, marché sera clôturé lundi soir à minuit. Et on parle notamment du dossier Tanguy Ndombele. On en parle depuis plusieurs jours. Pourquoi pas une arrivée possible au Paris Saint-Germain, le joueur de Tottenham. Et lui commence à s'impatienter, hein, Arnaud. Hein.
Le milieu de Tottenham qui est, c'est vrai, courtisé activement par le Paris Saint-Germain, comme tu viens de le souligner, ça fait plusieurs jours qu'on en parle. Eh bien, Ndombele, il se lasse de la lenteur des négociations parce qu'il veut trouver une porte de sortie, il veut partir de Tottenham. Et bien, selon Loïc Tanzi, justement, Ndombele pourrait tout simplement ouvrir d'autres portes à d'autres clubs. Everton et son nouvel entraîneur Frank Lampard, Leverkusen et Valence seraient intéressés par le profil.
Votre avis là-dessus, les gars, Sébastien et Roland, est-ce que Paris doit tout faire pour boucler le dossier Ndombele?
Tout faire, n'exagérons pas. Même si, bon, c'est le coach qui le souhaite. On est là, quand on a la responsabilité d'un club, pour faire tout pour que le coach soit content. Bon, c'est vrai qu'il y a 8 ou 9 milieux de terrain dans l'effectif de Paris Saint-Germain. Il en faudrait peut-être un dixième d'un joueur qui ne s'est pas imposé. Pourquoi pas? Le football est parfois bizarre, mais qui continue à l'être.
Ça ferait embouteillage. Non, mais ça ferait embouteillage. même si c'est vrai qu'il a un profil complètement différent des autres joueurs que Pochettino a à disposition. Maintenant, quand on sait que c'est compliqué de gérer un effectif aussi important, voilà, s'ils n'arrivent pas à faire partir un ou deux joueurs, bah oui, au moins un, en tout cas, dans l'entrejeu. Bon,
Pochettino qui a déjà des complications avec les deux gardiens, qui a déjà des complications avec Neymar, qui a déjà des complications avec Di Maria, Mbappé, Icardi et tout. Si il veut en plus une complication avec un joueur qui garantit remettre en course, mais pourquoi pas?
Oui, et qui vient pour du temps de jeu en plus. Bah,
hein, alors justement, la question que j'allais poser, c'est quand t'es joueur et milieu de terrain du PSG, je sais pas, Herrera, Paredes et compagnie, comment tu prends ces infos de voir que ton coach veut tout faire pour aller chercher un nouveau?
Mais ça fait partie de la vie d'un footballeur. Encore plus, j'ai envie de dire, dans une écurie comme le Paris Saint-Germain, ils sont habitués à la concurrence.
Ah mais là, ils sont nombreux déjà.
Oui, bon, Paredes, on sait que c'est le lieutenant de Messi, donc a priori, lui, il est plutôt intouchable. Après, pour les autres, c'est sûr qu'ils ont dû être poussés un peu vers la sortie. Et puis, s'ils partent pas, comme comme la plupart des joueurs du PSG, ils veulent pas partir parce qu'ils ont un confortable contrat.
Ça c'est sûr.
Et ben ils resteront et puis ils joueront, ils gratteront des minutes. Voilà.
Après il va falloir voir un petit peu si ça se fait. Quelle va être cette gestion? Donc il y aura eu une promesse comme quoi il serait titulaire dans un effectif où il y a autant de milieux. Il y a déjà un Wijnaldum qui a du mal à s'intégrer.
Allez, on promesse dans le foot,
on sait
coach.
Pas, non mais on sait pas en plus si on va pas changer d'organisation, ce qui fait que si tu as une troisième arrière centrale qui joue, ça te fera un 6-8 en moins. Ben écoute, c'est vrai qu'il y a deux places pour 6 et 8. S'ils sont 8 ou 9 ou 10 pour deux places.
Bon, sans départ, moi j'irai pas, en tout cas, ça c'est sûr.
C'est ça. On est d'accord. Autre dossier qui nous intéresse, c'est l'info foot étranger de la journée, Arnaud Valadon. Pierre-Emerick Aubameyang qui pourrait, pourquoi pas, signer au Barça.
Car les Blaugrana cherchent à se renforcer, surtout sur le poste d'avant-centre. Ils avaient Morata dans le viseur, le joueur de la Juve, mais la direction catalane se serait ravisée sur le Gabonais en échec à Arsenal. On parle d'un prêt jusqu'en juin. C'est la piste, mais cette venue serait possible si et seulement si Ousmane Dembélé s'en va. L'ailier est en fin de contrat en juin et c'est vrai que vous avez suivi le bras de fer qui est lancé entre les deux parties.
Et dans ce qu'on entend à droite et à gauche, bon évidemment, s'ils ont pris Bryce Waite à un certain moment où on trouvait ça comme une anomalie qu'un joueur aussi moyen puisse signer dans un grand club comme le Barça, mais en ce moment, sauf si on nous dit des conneries, mais c'est pas plutôt le recrutement de bons avocats qu'il va falloir pour le Barça.
Ouais, ça coûte cher aussi, t'as
une
raison.
Une grosse défense.
Mais ce qui est sûr par rapport au profil d'Aubameyang et ce que veut a priori mettre en place Xavi.
Ah, je le vois pas du tout.
Pas du tout. Autant Morata, ouais. ça collerait. Autant je vois pas comment. Je vois pas comment. C'est pourquoi pas. Ils lui laisseront de la place. Mais un joueur de rupture comme Aubameyang.
Tout après 6 mois.
Techniquement,
comme ça,
ouais. Qui est pas forcément le joueur le plus facile dans les petits espaces. Ouais. Bon, franchement, j'ai des doutes.
Alors parlons des Girondins de Bordeaux, Arnaud Valadon, parce que là, évidemment, on s'active de toutes parts pour renforcer l'effectif. Et on parle de pas mal de recrues et de joueurs qui ont envie de venir à Bordeaux, justement, Arnaud.
C'est le club français le plus actif. Joshua Guilavogui pourrait rejoindre la Gironde. L'ancien milieu de Saint-Étienne qui évolue actuellement à Wolfsburg a refusé Galatasaray car il a fait de Bordeaux sa priorité. Et puis plusieurs dossiers sont brûlants aux Girondins. Selon l'équipe, Phil Jones, le défenseur de Manchester United, est sur les tablettes tandis que Koscielny devrait voir son contrat résilié et il pourrait d'ailleurs s'engager avec Lorient, un club qu'il connaît bien. Ouais. Et enfin, ça, c'est une info RMC Sport. Un milieu ukrainien va signer à Bordeaux. Dalina Ingatenko, il appartient au Shakhtar Donetsk, mais est prêté depuis le début de la saison à Dnipro, en Ukraine.
Alors, Guilavogui, bonne ou mauvaise idée, les gars, pour les Girondins? Rappelons juste qu'effectivement, c'est un joueur qui a connu l'équipe de France sous l'ère Laurent Blanc rapidement, qui était de longues années à Saint-Etienne, qui joue depuis longtemps à Wolfsburg et qui a la particularité d'être polyvalent. Il peut jouer défense centrale.
Profil par rapport aux joueurs qu'ils ont dans l'entrejeu.
Ouais.
En défense centrale, bon, je pense pas qu'ils le prennent pour jouer en défense centrale.
Ils ont déjà pris Marcelo Bordeaux. Hein.
Ouais. Donc je
ben disons que pense moi, pas. Moi je te réponds, elle est aussi surprenante que bonne cette idée. Donc Guilavogui puisse signer aux Girondins de Bordeaux.
Ouais, ce qui te surprend, c'est le choix du joueur d'aller à Bordeaux.
À la limite, les Girondins de Bordeaux, ça reste les Girondins de Bordeaux avec une période difficile. Mais c'est que si ce joueur-là est en Allemagne, c'est avec un gros salaire. Et donc, voir les Girondins de Bordeaux capables de récupérer ce joueur-là, je dis tout simplement bravo.
Aujourd'hui, avec les montages, bon, a priori, Koscielny va résilier, donc ils vont faire des économies.
Ouais.
Marcelo, je pense pas qu'il soit venu gratuitement non plus. C'est vrai qu'il faut les trouver quand même les sous. Hein, alors que c'est une période compliquée pour tous les clubs. Mmh. Mais en même temps, coach, quand on fait un pari comme ça, parce que ça reste un pari global, c'est aussi pour se sauver. Parce que le pire, ça serait de descendre en Ligue 2, parce que financièrement
complètement. Mais
là, pour agir à court terme.
Ça, c'est sûr qu'un garçon comme Guilavogui, et ça lui a pas échappé, mais il est au courant aussi du potentiel de Bordeaux. Il est au courant de ce déséquilibre quand on regarde l'effectif de Bordeaux. Et je me mets à la place d'un garçon comme Gérard Lopez qui arrive pour gérer cet effectif. Tu as 8 ou 9 joueurs offensifs. c'est tout simplement impensable. Là, on n'est plus dans les erreurs, on en fait tous. Là, on est dans une faute professionnelle de ceux qui ont fait ça avant l'arrivée de.
Ouais, puis c'est la pire défense. C'est la pire défense du championnat, la pire défense en Europe. Alors, c'est vrai que Guilavogui, même si il peut jouer derrière, il jouera au milieu, mais ça sera le milieu défensif, donc ça sera la sentinelle. Donc, mais bon, n'empêche qu'en prenant Marcelo, il se faisait souvent prendre dans le dos.
Je l'ai partagé, moi. Ça
reste un leader, hein. Il y a pas de souci.
Moi, je lui ai dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Lui, il me dit, c'est pas si mal. Moi, j'étais pas.
Il a du charisme, quand même.
C'est-à-dire, est-ce qu'il a encore le niveau d'être.
Non, mais je te donne une précision en ce qui concerne Marcelo. Premièrement, on entend parler de 36-37. Je crois que c'est quand même un peu moins. C'est quelqu'un qui a pas pour l'habitude de prendre du poids, qui est sérieux, qui a même joué avec l'équipe réserve. Et ça dépend aussi de l'organisation qui sera mise en place pour maintenant terminer la saison. Si c'est pour jouer avec seulement deux arrières centraux, deux latéraux qui sont moyens défensivement et quatre offensifs avec seulement deux milieux relayeurs récupérateurs devant cette défense, là, ça sera très compliqué pour moi.
Mais disons qu'en jouant à deux, coach, voilà, deux défenseurs, avec un Guilavogui, par exemple, devant eux,
Mais moi, je verrais plutôt Marcelo dans une défense à trois arrières centraux pour être l'axial de ces trois arrières centraux. Marcelo, oui.
Ouais, mais 34 ans en défense centrale, c'est.
34 ans, c'est encore jeune.
Et il y a un aspect qu'on oublie souvent, c'est l'aspect revanchard un peu. C'est vrai que c'est vrai. Mentalement le fait de il a été mis au placard, il a subi ces derniers mois.
Il a pas envie d'arrêter, c'est
tout. Exactement, voilà.
Et dernière info, justement, on parle de l'OL, Arnaud Valadon, on aimerait bien faire venir un ancien parisien, Giovanni Lo Celso.
Un profil qui plaît beaucoup, et pas qu'à l'Olympique Lyonnais, mais en tout cas l'OL en aurait fait sa priorité pour remplacer notamment Bruno Guimaraes, qui est de plus en plus proche de Newcastle. Mais un concurrent de taille se serait manifesté, c'est Villarreal, le club espagnol. Et selon le très bien informé Fabrizio Romano, l'OL a un coup d'avance car les Rodaniens seraient d'accord avec Tottenham. Il ne manque plus que l'accord du joueur pour arriver dans le Rhône, mais attention, Villarreal rentre dans la danse.
Je crois que ça serait donc deux joueurs qui remplaceraient Guimaraes et notamment, on rajouterait à Lo Celso le jeune Fèvre de Brest, ce qui pour moi serait une très très bonne idée de la part de Lyon.
Mais est-ce que vous avez l'impression qu'ils se renforcent en faisant ça à Lyon? Parce que bon, ils sont quand même 9e ou non, mais je dis pas que c'est pas des bons profils. En plus, Fèvre, ça reste un jeune joueur. Lo Celso, on l'a vu, mais moi je parle dans cette saison là qui est entamée, où Lyon a besoin d'un titre d'Europe.
Guimaraes, c'était vraiment la locomotive.
Où Lyon a besoin de Coupe d'Europe, on le dit tous les ans, et normalement même la Ligue des Champions pour survivre financièrement. Alors c'est vrai que là ils vont prendre un gros chèque a priori, mais n'empêche que tous les clubs qui sont au-dessus d'eux, ils font en sorte ou de se renforcer ou de pas perdre leurs meilleurs joueurs, et là j'ai l'impression que Guimaraes quand même c'est
vaut mieux perdre Guimaraes que Paqueta.
La question que je me la pose, j'ai pas la réponse, mais je vous la pose.
Pas dans la réponse, vas-y.
Est-ce que quand on a Guimaraes, qu'on récupère une cinquantaine de millions d'euros
dans la poche,
qu'on arrive à ne dépenser qu'une quinzaine ou grand maximum une vingtaine de millions d'euros, est-ce que déjà sportivement et footballistiquement on s'est affaibli en remplaçant Guimaraes par deux joueurs aussi bons que Lo Celso et Fèvre?
Alors moi, oui. sur le papier pas forcément. En revanche, il faut tenir compte de l'état de forme actuel, et là je suis un peu d'accord avec Sébastien, c'est que tu sais ce que valait Guimaraes en ce moment à l'instant T, la saison qu'il réalisait, tu sais pas vraiment dans quel état
t'arrives dans un nouveau club, certes si c'est Lo Celso et Fèvre, il n'y a pas de souci, ils connaissent le championnat de France pour l'adaptation, c'est ça. Mais ça reste des profils différents. C'est pour ça que sur les deux joueurs, bon, Lo Celso, a priori, ça serait plutôt un prêt sec. Mais Fèvre, je suis d'accord, c'est un super joueur.
Enfin, il joue Fèvre dans cette équipe, il n'y a pas
de souci. Bah, on lui trouvera une place. Il y a Shaqiri qui devait.
Il peut jouer à la place de Shaqiri.
Qui joue plus beaucoup d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les derniers matchs ou le premier semestre lyonnais, individuellement, oui, Guimaraes, ça restait quand même l'un des patrons de cette équipe.
Là où je suis surpris de tous les débats que j'entends depuis plusieurs jours pour terminer ce mercato, c'est le procès que l'on veut faire à Lyon de se séparer de Guimaraes. Maintenant, les amis, c'est pas un objet, c'est pas un santong dans une crèche, un joueur de football. Si Guimarães rentre dans le bureau du président Jean-Michel Aulas et qui dit je veux partir à Newcastle, ils m'ont quadruplé ou quintuplé mon salaire. J'ai toujours entendu depuis de longues années qu'on ne peut pas retenir un joueur qui vraiment
veut partir. Oui, alors là je suis d'accord, il vaut mieux à la rigueur qu'il le vende, sachant que dans un second temps, tu parlais de Paqueta, Benoît. Je pense que dans un second temps, au mercato d'été.
Alors attention, Paqueta, long contrat, hein, je crois 2024 ou 2025.
Donc ouais, mais pareil, c'est lui, à mon avis, au vu de la saison qu'ils sont en train de faire, même si elle n'est pas terminée, je pense qu'en plus, Juninho est parti, il ne faut pas l'oublier.
Ouais, t'as raison.
Je pense qu'il va demander à partir.
Juste pour terminer, et là où je suis d'accord avec Roland.
Il va demander à partir et on lui dira, avec toute la sympathie qu'on a pour lui, ben ok, pas de problème, on réglera ce problème au mois de juin. Mais là, on ne peut pas se séparer de Guimarães.
Ah non, mais moi, je te parle pour le mois de juin, pour Paqueta.
Moi, je suis d'accord avec Roland.
D'ici là, il y a beaucoup de choses qui changeront.
50 millions pour Guimarães, je suis pas sûr que ça se refuse pour l'OL.
Ouais, mais c'est pas 50 millions dans leur poche, hein, a priori, il y a une bonne petite somme. Puis il avait pas payé 5 millions, il avait quand même payé une vingtaine déjà.
Ouais, mais bon.
Je suis d'accord. Après, moi, sportivement, j'enlève l'aspect financier, hein, puisque s'il quadruple son salaire, bon, voilà, on sait comment ça se passe en Angleterre. Tu vas à Newcastle, qui est bien embourbé, hein,
c'est sûr, le choix sportif, voilà, c'est dur à comprendre.
Ouais. Tu auras quand même la possibilité d'acheter un camion pour enlever la boue, toi.
A priori, avec le salaire, oui. Merci Arnaud Valadon d'avoir été avec nous. Toutes les infos à retrouver sur rmcsport.fr et les alertes qui tombent sur vos téléphones, téléchargez des applis RMC et RMC Sport. 19h30, avant le début de la seconde période entre Reims et Bastia en Coupe de France, on parie.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec un autre homme d'argent, évidemment. Expert en paris sportif, Yoann Guillet. Salut Yoann.
Salut messieurs, salut Yoann.
Qu'est-ce qu'on joue alors? J'imagine que Reims était déjà favori, mais là, le fait que les Rémois amènent à la pause, on doit pas avoir des cotes très équilibrées.
Non, là, plus maintenant. Pourtant, c'était le cas avant le match. Hein. Mais maintenant, la cote de Reims est à 1,16. 4,45 le match nul. 16 maintenant la cote des Bastiais. Mais messieurs, j'ai bien envie de vous proposer le 1 partout. Moi, dans ce genre, pour ce genre de match, en tout cas, vraiment, j'y crois. Il est coté à 5,30.
Roland.
Non.
Merci messieurs, bonne
journée. Moi oui, parce que c'est le cœur qui parle.
Bah, évidemment.
Non, mais moi je pense que, à ce qui concerne le cœur, je te comprends. Et je sais que j'ai beaucoup de sympathie pour les Corses et pour Bastia.
En revanche, en ce qui concerne le porte-monnaie,
d'être éliminé à partir du moment où le tirage au sort t'a pas donné la possibilité d'avoir un match à Bastia contre une équipe de Ligue 1, faire un match sérieux, surtout ne pas avoir de blessés et se servir de ce match pour se sauver et ne pas descendre, parce que ça va quand même beaucoup mieux depuis quelques semaines, depuis l'arrivée justement de Régis Bois.
Prends ça, monsieur Guillet.
Est-ce que tu as un score exact à proposer, coach?
2-0.
Ah. Eh bien, il est coté à 3,70.
Merci, Yoann. Tous les conseils à retrouver sur rmcsport.fr.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
19h31, on revient dans un instant pour le début de la seconde période entre Reims et Bastia. On sera en direct avec l'entraîneur de Versailles, Youssef Chibi, après l'exploit de Versailles, club de National 2, qui est allé sortir Toulouse, club de Ligue 2, au Stadium, 1-0. Et puis on fera le point sur l'avant-match entre le Burkina Faso et la Tunisie. C'est le deuxième quart de finale de la Coupe d'Afrique. À tout de suite sur Reims.
RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
19h35 sur RMC. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La Dream Team RMC Sport est là. Coach Courbis d'un côté, Sébastien Piocel de l'autre. C'est un week-end de Coupe de France et de Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe de France, on y retourne. 8e de finale entre Reims et Bastia. Seconde période, Kevin Gasser.
Oui, toujours 1-0, 37e minute, but d'Hugo Ekitike, son 9e de la saison, dont un score logique, mais ce sont bien les Bastiais qui se sont montrés les plus dangereux juste avant la mi-temps. À noter un changement, le jeune Martin Adeline, 18 ans, qui est entré en jeu à la place d'Ilan Kebal. 1-0, 49e minute de jeu.
Je vous rappelle que Amiens est allé s'imposer à Nancy cet après-midi et s'est également qualifié pour les quarts de finale. Les Amiennois se sont imposés 2-0 et donc l'exploit pour l'instant de ces huitièmes, c'est le petit poussé Versailles, club de National 2, qui est allé sortir Toulouse au Stadium. Toulouse est leader de Ligue 2. Victoire 1-0 des Versaillais et on en parle avec l'entraîneur de Versailles, Youssef Chibi, qui est en direct avec nous. Bonsoir Youssef.
Bonsoir.
Magnifique exploit, on vous félicite. Et un véritable exploit parce que vous n'étiez pas chez vous. Vous avez joué au Stadium et vous avez sorti le TFC. Bravo.
Merci, ouais, c'est sûr que la tâche était rude. Déjà, rencontrer le leader de Ligue 2, ce n'était pas simple.
Ah ouais.
Mais y aller faire au stadium, c'est encore plus compliqué. Les garçons ont répondu magnifiquement avec un match qu'on a voulu réaliser. Et voilà, au final, on a le résultat escompté. Je suis fier de mes joueurs.
Youssef, très, très content de t'entendre. Puisque je suis au courant par des amis communs que tu fais vraiment du bon boulot. Et là, félicitations parce que ça sera, et ce n'est pas encore terminé parce qu'on va attendre avec impatience le tirage au sort, ça sera un souvenir extraordinaire pour ta carrière qui est loin d'être terminée, elle ne fait que commencer.
Merci coach, c'est agréable d'entendre ce mot. Mais voilà, nous les entraîneurs, on est vraiment... Une vie à travers nos joueurs. Et donc les joueurs aujourd'hui ont réalisé vraiment un match magnifique, ils ont respecté le plan de jeu face à une bonne équipe. Et donc, grâce à eux, bah, forcément, le staff aujourd'hui compte aussi les fruits de cette décision. Mais avant tout, j'aimerais vraiment mettre en avant l'état d'esprit et la cohésion de ce groupe qui est merveilleux. Donc, on va s'attacher à poursuivre, faire attention à l'environnement médiatique maintenant que la fin de l'année. Continuer à performer en championnat parce que ça se passe plutôt bien.
Le problème, c'est que vous n'allez jamais pouvoir recevoir.
Ouais, bon, on a cette problématique avec notre stade, mais bon, ça nous a réussi au stadium, même si voilà, c'était difficile. On a déjoué les pronostics.
Mais... Bon, s'il faut aller au vélodrome ou au parc
des Princes. Tu es quand même au courant de l'anecdote du pourquoi, évidemment.
Ah oui, je pense.
Donc finalement, nous, ce qu'on a pensé, logiquement, mais peut-être bêtement, que c'est grâce à Louis XIV, donc et à ses habitudes et aux obligations qu'il y a pu y avoir avec le roi Soleil, que ce match ne s'est pas fait à Versailles, qui s'est fait à Toulouse.
Eh ouais.
Et quand on a pensé que jouer à Toulouse, ben c'était vraiment un handicap, ben qui sait ce qui se serait passé si vous aviez joué à Versailles. Donc merci aussi, pas seulement toi, tu vois, Youssef, merci aussi Louis XIV.
Oui, c'est sûr qu'on a le poids de l'histoire avec une ville merveilleuse, mondialement connue. Et bon, il y a ces petits handicaps, forcément, d'infrastructure. Mais j'espère que cet engouement, que cette lumière sur le club et la ville nous permettra de pouvoir améliorer cet aspect-là.
Benoît, rappelle quand même que c'est le règlement.
Oui, alors je vais vous rappeler exactement pourquoi Versailles n'a pas pu recevoir le TFC. En fait, une règle stipule qu'aucune source de lumière ne doit être visible depuis la chambre du roi Louis XIV. Problème, le stade Montboron de Versailles est situé dans un rayon de moins de 5 km donc, du château de Versailles. Impossible d'y installer des éclairages. C'est pour ça qu'on a inversé la rencontre. Effectivement, vous le saviez, Youssef, hein, évidemment. On va en parler, mais vous le saviez, hein, évidemment.
Oui, c'est une problématique qui dure.
Ah, c'est magnifique.
Alors, je veux juste préciser avant d'entendre Sébastien Piocel qu'il y a certains de vos supporters qui ont fait 700 km en bus, qui sont partis à 5h30 pour vous soutenir. Ça, c'est beau quand même, Youssef. Hein.
Oui, c'est magnifique et c'est aussi une source de motivation supplémentaire pour nous. On doit savoir que les gens nous soutiennent, nous supportent. On sait qu'on avait une responsabilité de faire un bon match, de donner tout sur le terrain, pour remercier les gens qui se sont détachés, les gens qui nous soutiennent aussi à Versailles. Bah, on représente aussi un peu la région parisienne, le foot amateur de la région parisienne. Donc, on remercie aussi les clubs et les éducateurs qui nous soutiennent. Et on est fiers d'avoir pu donner cette image.
Seb. Youssef, c'est Seb Piocel. Bon, félicitations déjà. Justement, je rebondis un peu par rapport à l'histoire du stade. Vous avez beaucoup d'ambition. Vous êtes premier de votre championnat.
National 2.
Avec certainement comme objectif, dévoilé ou non, mais en tout cas d'aller au niveau du national. Est-ce que vous avez déjà, alors ou les dirigeants ou l'entraîneur, mais forcément on est concerné, imaginez que si vous deviez monter, ce que je vous souhaite, que vous aurez pas de, finalement vous auriez pas de stade pour jouer le vendredi soir par exemple.
Ben, aujourd'hui on a nos dirigeants qui œuvrent pour pouvoir justement trouver des solutions à court terme pour gérer cette éventualité, parce qu'elle existe, on est leader aujourd'hui de National 2. Et c'est une possibilité, on va tout faire pour conserver cette place jusqu'à la fin de saison. On a une municipalité qui nous soutient également, on a M. de Mazières, le maire de Versailles, qui s'est déplacé aujourd'hui, avec deux de ses adjoints pour nous soutenir. Donc la question est prise très au sérieux en ce moment, et le parcours qu'on réalise ben, va dans ce sens pour justement faire en sorte que notre projet puisse poursuivre.
Youssef Chibi, l'entraîneur de Versailles, est notre invité. Versailles, club de National 2, petit poussé de la compétition qui vient de sortir Toulouse au Stadium, victoire 1-0. C'est une sacrée histoire pour vous aussi, Youssef. Vous êtes entraîneur depuis 2014, vous avez connu la division d'honneur, la National 3, la National 2. Est-ce que c'est le plus beau jour de votre carrière d'entraîneur pour l'instant?
Bon, c'est un jour important en termes d'émotion. Quand on coach, quand on voit comment les joueurs se sont donnés sur le terrain, comment ils ont respecté la stratégie et le plan de jeu que nous avons mis en place, on est fiers de ce qu'on réalise. Maintenant, il faut aussi derrière garder la tête froide. On va savourer ce soir, les joueurs vont savourer. Ils ont une possibilité de sortir jusqu'à 2h. Je les ai laissés tranquilles ce soir, savourer entre eux.
C'est bon ça.
Mais derrière, on aura tout de suite la tête dans le championnat à partir de lundi pour repartir de l'avant et faire en sorte de bien appréhender la suite.
Justement, sportivement parlant, au-delà du discours classique lors de ce genre de match, est-ce que vous aviez changé quelque chose dans le système? Est-ce que vous avez joué à 5? Est-ce qu'il y avait un système différent, une animation différente par rapport à Toulouse?
C'est l'équipe que j'ai observée. Je me suis déplacé au Stadium, notamment contre Nancy. J'ai pris beaucoup de renseignements, j'ai vu pas mal de rencontres de cette saison pour me faire un avis. On a différents systèmes sur lesquels on opère depuis le début de saison. On a des garçons qui sont suffisamment intelligents et mûrs pour pouvoir switcher assez rapidement. Et l'idée, c'était vraiment de contrecarrer leur plan dans le cœur du jeu, parce qu'il y a des influences sur le jeu, notamment en grand cause dans le domaine. Nicolas Flem, qui était absent, mais des joueurs qui impactent leur équipe par leur influence. Et on a mis un dispositif qui nous a permis d'identifier le cœur du jeu pour pouvoir empêcher d'avoir certains joueurs offensifs qui puissent prendre de l'espace, prendre de la vitesse, et les mettre tout de suite dans une pression et les déconnecter des autres.
Vous étiez toujours en supériorité numérique de toute façon.
Oui, parce que on rappelle que Toulouse a pris un carton rouge à la 20e minute, le carton rouge pour Mvoué. Deux questions pour terminer, Youssef. La première, je vous fais ce qu'on appelle un tu préfères. Vous préférez un dernier carré en Coupe de France ou une montée en National?
Une montée en National.
Je m'en doutais.
Sans aucune hésitation.
Ouais, je m'en doutais. Parce que le projet à long terme, effectivement, c'est de connaître le National, la 3e division française. Et puis Youssef, pour terminer, le tirage souhaité pour le tour suivant, c'est plutôt aller au Parc des Princes, au Vélodrome ou à Bergerac?
Je ne cache pas qu'on m'a posé souvent la question sur les tours précédents. J'ai pas de préférence. Sincèrement, j'ai pas de préférence. On prend les matchs les uns après les autres. On aura ce qu'on mérite et derrière on essaie de faire le meilleur match possible.
Comme les journées s'agrandissent, au prochain tour, il y aura la possibilité de jouer à 15h.
Il faut demander au diffuseur de jouer à 14h, ça règle le problème, c'est vrai.
On va espérer, mais ça va être difficile.
Merci Youssef Chibi d'avoir été avec nous, entraîneur de Versailles.
Salut, Youssef,
petit poussé de la Coupe de France.
Et encore bravo.
Et on vous dit à bientôt. Au moins au tour suivant, en quart de finale de la Coupe, vous venez de sortir le TFC au Stadium, victoire 1-0 des Versaillais. 19h44, le match en cours oppose Reims, club de Ligue 1, à Bastia, club de Ligue 2, Kevin Gasser.
Oui, 58e minute de jeu, toujours 1-0 pour le stade de Reims face à Bastia. Et les Corses qui ont du mal à mettre en péril, en danger la défense rémoise qui tient bon. Pas de grosse occasion pour l'instant. Donc 58e, 1-0 toujours pour le stade de Reims.
On rappelle que Amiens s'est également qualifié pour les quarts de finale en allant gagner à Nancy 2-0 et qu'on suivra Marseille.
Voilà, et Nantes aussi.
Voilà, Nantes, c'est vrai. Nantes a battu Brest.
Versailles à Amiens.
Le Nantais, arrête pas de me dire Nantes depuis tout à l'heure.
Même c'était hier soir, c'était les premiers qualifiés.
Sur ce qu'on a vu hier, Nantes, attention, c'est pas un
gros. Le petit Blast, est-ce qu'ils vont le garder jusqu'au 31?
Ah, c'est une bonne question. On demandera Loïc Tanzi qui a le téléphone qui.
Je pense.
Oui, oui. Effectivement. 19h45, on se quitte un instant et on revient pour vous présenter le match qui arrive sur RMC à partir de 20h. C'est la Coupe d'Afrique des Nations, le deuxième quart de finale qui va opposer le Burkina Faso à la Tunisie. Je vous rappelle la qualification du Cameroun, les Lions Indomptables qui ont battu la Gambie 2-0. A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
19h48 sur RMC, Coupe de France et Coupe d'Afrique des Nations ce soir, évidemment avec Coach Courbis et Sébastien Piocel. Le match en cours oppose Reims à Bastia. Quelle occasion pour les Bastiais, Kevin!
Oui, une tête qui passe à quelques centimètres de la barre transversale. On joue la 62e minute de jeu, 1-0 toujours pour le stade de Reims. Et cette occasion, oui, donc pour les Bastiais, ils pourront s'en mordre les doigts parce que là, le centre était parfait de la gauche et la tête qui vient vraiment flirter avec la barre. 1-0 toujours, 63e minute de jeu.
On est agréablement surpris par
par la réaction bastiaise, les gars, depuis l'ouverture du score de Reims. Hein.
Oui, mais tant que le break ne sera pas fait par les Rémois, les Bastiais, logiquement, ils vont y croire. Hein.
Ouais, Seb, toi qui les connais bien, parce qu'on les commande tous les week-ends avec la Ligue 2 à 19h sur RMC, on...
bah, ils ont le potentiel pour aller marquer. Après, moi, ce qui peut être un danger pour eux, c'est justement bah, que là, ils sont beaucoup plus portés vers l'offensive et que ouais. derrière, des joueurs comme Ekitike qui vont à 2000 à l'heure, ils peuvent leur faire mal sur les comptes. Mais tant qu'il y a 1-0, comme le dit le coach, d'ici la fin du match, ils peuvent trembler, les Rémois.
Un mot, Kevin, sur la prestation de Jens Kajust, international suédois, recrue la plus chère de l'histoire du Stade de Reims, arrivé donc cet hiver en provenance de Midtjylland. C'est son troisième match. Comment tu le trouves ce soir?
Alors c'est vrai qu'il apporte beaucoup de sérénité au milieu de terrain. Il a des très longues jambes et il fait des dribbles un peu chaloupés. Alors pour ce que j'ai vu, ça ressemble un peu à du Marouane Fellaini de l'époque d'Everton. C'est vraiment très agréable à voir jouer et c'est une bonne pioche, je pense, pour le Stade de Reims.
Ouais, les gars, vous avez suivi un petit peu. Pour l'instant, vous êtes sur votre faim. Vous entendez.
Je l'ai vu contre Paris. Il est passé à côté de son match. Après, c'est le Paris Saint-Germain. Ouais. Au-delà de l'aspect athlétique, et je pense qu'il a besoin d'être prêt physiquement, et comme on le dit souvent quand on arrive dans le championnat de France, on est surpris hein, par rapport à cet aspect-là. Mais c'est vrai qu'après on voit qu'il y a de la qualité. En même temps, c'est une bonne pioche. Bon, il en payait quand même 10 millions. C'est ouais. Il n'est pas arrivé comme ça par
pour
hasard.
Pour l'anecdote, il l'avait repéré lors d'un match amical entre les deux équipes. C'est Younes Abdelhamid qui nous expliquait ça, l'infiltré des RMC. Ils avaient joué face à lui, ils l'avaient trouvé impressionnant, ils se sont renseignés, ils se sont dit pourquoi pas mettre de l'argent sur ce joueur avec un potentiel à la revente, Roland. Ça peut.
Oui, puis cette équipe-là, bon, on la suit un petit peu dans certaines coupes d'Europe et je la trouve toujours en train de bien jouer. Mmh.
Kevin, se passe un truc?
Non, pas du tout. C'est Hugo Ekitike qui a pris un petit coup. Faute sifflée par Stéphanie Frappard. Donc, bon. Il y aura un coup franc aux 38 mètres. On est à 40 mètres pour les Rémois. Mais pour l'instant, pas de danger sur la cage bastiaise. Okay.
C'est pas un scoop que je veux dire, mais il est talentueux, cet Ekitike.
Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et d'ailleurs, il avait des offres lui aussi cet hiver. Il devrait rester a priori, mais on sait pas combien de temps il va rester à Reims. Hein. Lui aussi, parcours particulier, parce qu'il a été prêté en Norvège, il me semble, la saison dernière. 1-0 pour Reims contre Bastia, 64 minutes de jeu. La Coupe d'Afrique des Nations, on rappelle la qualification du Cameroun pour les demi-finales de la compétition. Le Cameroun, pays organisateur, victoire 2-0 contre la Gambie. Les buteurs, comme d'habitude, c'est Toko Ekambi et Vincent Aboubakar. 5 buts pour l'un, 6 pour l'autre. Ils ont mis les 11 buts camerounais depuis le début de la compète. Et nous, le match qu'on va suivre à partir de 20h, c'est Burkina Faso, Tunisie, avec Monsieur Kane sur RMC. Hamza Ramani, salut Hamza.
Bonsoir à tous.
Hamza est resté malgré l'élimination de l'Algérie. Ça, c'est
oui, bon. on est toujours présent. C'est la fête du football africain.
T'as un peu moins de stress du coup.
Exactement. Beaucoup plus de plaisir à suivre tous ces matchs de qualité.
Alors, présente-nous ce Burkina Faso-Tunisie. Deux équipes qui avaient bien mal démarré avant de réagir, notamment en huitième de finale, hein, Hamza.
Tout à fait. Alors, déjà, c'est une affiche alléchante et ouais. J'ai même envie de dire très indécise. Hein. C'est peut-être la plus indécise de ces quarts de finale. Alors, effectivement, il y a eu des difficultés lors du premier tour. Le Burkina Faso qui a terminé deuxième de son groupe derrière le Cameroun avec 4 petits points. C'est encore plus compliqué pour les Tunisiens. 3 petits points seulement lors du premier tour et de défaite. Ils sont passés en qualité d'un des meilleurs troisièmes. Mais la Tunisie a surtout été touchée par le Covid-19. Il y a eu une vingtaine de cas si on prend le staff inclus. Donc ça a été compliqué. Là, la Tunisie commence à retrouver l'intégralité de son effectif. Il voit également le retour de son sélectionneur Mondragon qui sera sur le banc ce soir du côté de Garoua dans le nord du Cameroun. Mais effectivement, c'est une affiche très alléchante. Petit point compo rapidement sur le Burkina Faso. Bertrand Traoré est remplaçant. Il était blessé. Il revient. Il est encore trop diminué pour jouer au moins 90 minutes.
Kazri titulaire hein, qui revient, qui était en cours de jeu en 8e.
Et Dylan Brown également titulaire en défense centrale de joueurs qui était touché par le Covid, qui était dans le groupe face au Nigeria, mais qui sont titulaires ce soir.
C'est quand même important les deux.
Alors là, pour pronostiquer ce match, les gars, Roland.
Écoute, je vois quand même cette équipe de Tunisie solide pour se qualifier. Alors de quelle façon écoute, je ne donnerai pas de précision, mais elle m'a quand même fait grosse impression pour battre ce Nigeria. Sincèrement, je les voyais énormes et je ne pense pas que j'étais le seul.
Peut-être pour vous aider
Nigeria, je parlais.
des pronostics. Il faut savoir que le Burkina Faso, c'est la bête noire de la Tunisie. À deux reprises, les deux équipes se sont affrontées en quart de finale. À deux reprises, le Burkina Faso s'est qualifié. En 98, c'était à domicile pour les étalons. Et puis plus récemment, en 2017, avec l'immense Aristide Bansé qui avait marqué.
Ah oui, c'est
et
vrai.
Préjus Nakulma, pardon, l'ancien Nantais, qualification.
Ancien Orléanais,
du Burkina Nakulma. Faso. Aussi, bien sûr, ah oui, bien sûr, tout à fait. Et de l'autre côté, la Tunisie, c'est l'une des équipes les plus régulières même du continent africain. C'est le seul pays à se qualifier pour les quarts de finale depuis 2015.
Ouais, et la Tunisie a quand même cet ancrage africain, entre guillemets, Roland, avec des clubs qui vont souvent loin dans la Ligue des Champions africaine, avec des joueurs qui évoluent en Afrique. Ça, c'est un plus quand même pour la Tunisie.
Ah, complètement.
Mais toi qui as vécu une CAN avec le Niger, tu as pu te rendre compte.
Ouais, mais bon, cette équipe de Tunisie, c'est comme l'Algérie. Même si l'Algérie a raté la CAN, il y a une génération très, très intéressante. Tu as au moins 25 joueurs capables d'avoir le niveau pour gagner cette CAN.
C'est vrai. Bon, après, Hamza me disait l'Algérie, le problème, c'est Belmadi. Mais bon, après, c'était son avis.
Ah bon. On aura le temps d'en reparler, je pense.
Je sais qu'il est un peu sensible sur le sujet, donc c'est pour ça que je le chauffe. Seb, comment tu le vois, ce match, donc?
Ouais, moi aussi, je ne les voyais pas du tout passer contre le Nigeria.
Ouais.
Et puis là, quand on regarde la compo, quand on regarde les... Puis bon, en fait, quand tu sors d'une victoire où tu étais outsider, ça te renforce un petit peu. Donc je mettrais plutôt une petite pièce sur la Tunisie. Et puis même si sur les deux dernières confrontations en CAN, ils se sont fait éliminer par le Burkina, voilà, je sens bien les Tunisiens.
Il y a quand même le côté fatigue du Burkina qui est allé jusqu'au tir au but, effectivement, pour passer le tour précédent. Donc il faut en tenir compte. Merci Hamza. On te retrouve dans moins de 5 minutes pour le coup d'envoi de ce match entre le Burkina Faso et la Tunisie. Info transfert officialisé à l'instant par le FC Barcelone. Le Barça confirme l'arrivée d'Adama Traoré, l'ailier de Wolverhampton, qui est espagnol, qui a 26 ans, qui a été formé, effectivement, et bodybuildé à la Masia, effectivement, l'un des joueurs les plus balèzes du foot européen.
C'est énorme.
26 ans, et bien voilà, il rejoint le Barça en
prêt. Il change toute la salle de muscu, il paraît, là-bas.
Ah ouais, là, c'est...
Il faisait pas une très bonne saison.
À côté de Pedri et compagnie, là, il va faire costaud, effectivement. Ouais. Roland, ce choix d'Adama Traoré ou du Barça, plutôt aller le chercher à Wolverhampton?
Sincèrement, je m'imagine ce joueur comme un joueur intéressant. De là à être au Barça, avec l'image qu'on a du Barça de Xavi, Iniesta et tout.
Ah ouais.
J'ai du mal, oui.
Bah, encore plus s'ils prennent Aubameyang. Je me dis, ils vont faire quoi? Ça va être une équipe de transition. Qu'est-ce qu'ils veulent
maintenant
faire?
Maintenant, avoir Traoré sur le banc pour le sortir comme un lion en cage avec ses possibilités athlétiques, physiques pour les 30 dernières minutes d'un match, pourquoi pas?
Ah, nouvelle occasion, Bastiaise à Reims, Kevin Gasser.
Oui, toujours le même, Kevin Schur, qui sur la gauche était bien placé, qui prend une bonne reprise de volée, on va dire, qui passe quand même à quelques mètres du but.
Sur le ballon.
Exactement, elle a dévissé.
Une situation bien claire. Les Bastiais qui sont obligés maintenant d'être un peu moins prudents. Et ce qui fera qu'ils seront un peu moins solides pour essayer de faire le maximum pour égaliser et ne pas avoir de regrets. Et là, la possibilité de se prendre un contre qui sera le contre du break rémois.
Bastia qui a fait entrer d'ailleurs du sang frais avec l'entrée de Dadil Taoui, ailier de 20 ans, à voir s'il va pouvoir débloquer la marque.
Seb Piocel les connaît tous, hein, donc si tu veux un avis pertinent sur les Bastiais, tu peux y aller, Kevin. 1-0 pour Reims contre Bastia, il reste 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. 19h57, Seb.
Non, juste pour revenir sur Traoré, au-delà du fait que c'est vrai qu'il soit très costaud, très rapide, mais en termes de statistiques, en Première Ligue, c'était l'un des meilleurs dribbleurs.
Ouais, bien sûr. Il est formé à la Masia.
Mais moi, ce qui me, à la rigueur, que lui retourne là-bas, il a eu cette formation-là, il dénote un peu, c'est vrai, quand tu revois les autres joueurs. Après, il ramène du muscle, tout ça.
La frappe de Sébastien Lamonge, et c'est le but! Un partout, égalisation! Égalisation au Stade de l'Aune, un partout entre le Stade de Reims et le SC Bastia. Sur cette occasion, un beau mouvement qui est parti de la gauche, Kevin Schur, encore une fois. Et ça se finit avec une belle frappe qui vient se loger peut-être dans la lucarne, j'ai pas le bon angle, mais elle vient se loger juste sous la barre du gardien Rémois. Un partout, 72e minute de jeu entre Reims et Bastia.
Alors, deux choses à dire, l'action bastiaise est sublime, mais est-ce que le gardien n'est pas fautif avec cette frappe juste sous la barre? Le gardien doit être dessus là. Non,
c'est le gardien numéro 2. Hein.
On voit le bon décalage aussi, hein,
de jouer Christophe Vincent.
Il lui dépose. Ouais, il est
caché. Il est caché au début, non?
Je sais pas, mais je sais pas s'il y va pas avec la mauvaise main, non?
Ah, peut-être. Peut-être. Écoute, on revoit la ralenti.
Pourquoi il va,
avec la main gauche.
Pourquoi il y va? Il est peut-être gauche, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'avec la droite, ça aurait été plus facile. Parce que là, il est lobé.
Bon.
Bon, tant mieux. Hein.
Enfin, l'avantage, c'est que ça nous fait du suspense. Un partout entre Reims et Bastia. Il reste moins de 20 minutes à jouer. Ça va être passionnant. Et on suivra également le match de Coupe d'Afrique des Nations entre le Burkina Faso et la Tunisie. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot.